Bonsoir, bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 9 septembre 2021. C'est la rentrée, donc nous sommes de la rentrée pour notre 50e quelque émission. Donc, Apatrides Anonymes, nous avons été absents il y a 2 semaines parce que nous sommes tous les deux jeudis à 18h30, de 18h30 à 19h30, 19h45 sur les ondes de choc.ca. Donc, c'est la rentrée ici à l'UQAM, c'est la rentrée pour les Apatrides Anonymes. D'ailleurs, parenthèse, il y a des gens qui veulent appliquer pour des projets d'émission, avoir des nouvelles émissions à Choc. Il y a encore quelques semaines de lousse pour peut-être être accepté dans la grille horaire de cet automne 2021 en live à l'UQAM. C'est Mathieu qui vous parle. Bonsoir, Marie-Ève.
Bonsoir, Mathieu.
Ça va bien?
Oui, oui. Il y a un peu fébrile.
Oui, bien, on est juste deux ce soir. Simon est en vacances à l'extérieur.
La dernière fois, c'était nous deux qui étions en vacances.
Ben oui. On raconte nos choses. Donc, là, c'est Simon. Mais il ne pouvait pas ne pas être là. Donc, il nous a préparé une pré-entrevue. Ben, pas une pré-entrevue, une entrevue pré-enregistrée avec une porte-parole du comité... attendez un instant, comité de travail sur le quartier chinois de Montréal, parler de la situation du quartier chinois à Montréal, patrimoine et compagnie, développement immobilier, tout ça. Donc, on va en reparler tantôt. Une longue entrevue qu'il nous a fait pré-enregistré, qu'on va vous passer plus tard. Sinon, l'émission, ben, on va vous parler aussi de, entre autres, de Marie-Ève. Tu vas nous parler de...
Je vais vous faire un agenda. Écoute, ça fait longtemps que un agenda antiraciste / militant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, qu'il n'y a pas eu d'événements. Puis il y a beaucoup d'événements en présentiel là, ce week-end, donc ça m'a fait plaisir de faire ça. Puis ensemble, on fait un bloc un peu autour des élections fédérales.
Oui, sur les promesses, enjeux, immigration et questions autochtones. Et moi, je vais vous parler aussi quelques petites nouvelles par cela. Ben, petites nouvelles, vous parler de plus longuement de Fairy Creek, la grosse mobilisation en Colombie-Britannique pour protéger les forêts anciennes. Et c'est la guerre de tranchées, c'est le cas de le dire, avec la GRC, les militants, militantes là-bas, autochtones ou non. Sinon, ben, je vais vous parler aussi d'un drôle de procès en Suède d'un ancien cadre de la répression de l'Iran dans les années 80, et aussi des petites nouvelles sur violence policière, entre autres, ici et ailleurs. Donc, et de la très bonne musique aussi, trois pièces ce soir encore une fois. Donc, les Apatrides Anonymes, on a une page sur le site de choc.ca, on a un site internet, apatridesanonymes.info, et on a une page Facebook qui est mise à jour au niveau de l'information, et pour écouter aussi nos émissions en balado, c'est sur toutes ces plateformes-là. Donc, on va commencer, Marie-Ève, avec quelques notes de musique, et ensuite, je vous parle de Mamadi Camara. Toujours aux Apatrides Anonymes. Pour ceux et celles qui nous écoutent en direct, il est 18h35 en ce beau 9 septembre 2021. Donc, Monsieur Mamadi Camara est toujours dans l'actualité. Vous avez peut-être vu que la semaine passée, un juge de la Cour supérieure qui s'appelle Louis Dion a décidé qu'il n'y avait pas eu de profilage racial. Il a déclaré que Monsieur Camara n'a pas fait l'objet d'un traitement différencié fondé sur sa race, sa couleur ou son origine ethnique. Peut-on lire dans un rapport publié récemment qui avait été demandé par le ministère de la Sécurité publique à ce juge. Donc, le fait que M. Camara est noir n'explique pas pourquoi il a reçu une contravention. La couleur de sa peau n'explique pas davantage son arrestation pour l'agression dont un policier a été victime, ni la décision du DPCP d'autoriser le dépôt d'accusation. S'appuyant sur la jurisprudence, le juge Dion explique que des cas de profilage racial doivent reposer sur la preuve factuelle et circonstancielle au dossier et non sur la perception de la victime. Rien de moins.
Et alors, et selon lui, qu'est-ce qui explique cette... si c'est pas le profilage, c'est pas la couleur de la peau, c'est pas...
Écoute, je m'en viens, la Marie-Ève, donne-moi 2 secondes, mais écoute, ce que je voulais dire, la prochaine phrase, les renseignements que la procureure du DPCP avait reçu des policiers était alors incomplet, concède-t-il, le juge, mais il n'était pas exceptionnel pour autant qu'elle autorise le dépôt d'accusation. Elle a aussi révélé par la suite ignoré au moment du dépôt des accusations que des policiers considéraient M. Camara comme un témoin important plutôt que comme un suspect, ce qui aurait pu changer la donne. Donc, selon le juge Dionne, la désorganisation policière dans ce dossier s'explique par le fait que l'agent Vig, après avoir été agressé, a déclenché le code ultime en affirmant qu'il s'était fait tirer dessus, ce qui n'était pas vrai, évidemment.
Non.
Cet appel de détresse et l'émotivité qu'elle a déclenché dans les premiers instants chez plusieurs membres du SPVM a incité ces derniers à agir dans un contexte de stress intense au détriment des façons de faire habituelles. Fait qu'il y a quand même des informations intéressantes dans ce rapport-là. 18 recommandations, ça c'est pas intéressant, sur la formation, sur les procédures, bon, les trucs habituels qui changent jamais finalement.
Ouais.
Cette semaine, les avocats de M. Camara ont rejeté la conclusion de l'enquête. Selon Virginie Dufresne-Lemire et Alain Arsenault, les problèmes survenus en cours d'enquête et mis en lumière dans le rapport devraient plutôt alimenter les questions sur le traitement réservé à M. Camara. Je les cite. Comment expliquer que l'enquête ait été aussi mal faite, qu'autant d'éléments importants aient été mis de côté ou n'aient pas été analysés à temps? L'incompétence, la négligence grossière, le racisme systémique et les biais inconscients apportent un éclairage essentiel, selon les avocats, à cette affaire. M. Camara insiste sur la banalisation de la violence qu'il a vécue, tant policière que judiciaire. La lecture du rapport a été un exercice excessivement douloureux et le débat n'est pas clos. Des questions demeurent. Donc, les avocats rejettent ce rapport-là. Il y a une poursuite, je le rappelle, de 1,2 million de M. Camara contre le SPVM et le DPCP. Donc, il va y avoir des suites. Il y aura sûrement aussi des plaintes en déonto. Il y aura sûrement des choses qui vont se passer. Donc, voilà pour la mise à jour sur M. Camara, qui est toujours pris dans cette fâcheuse histoire.
Ouais.
Ouais, Marie-Ève, hein?
N'est-ce pas?
On va parler d'élections.
Yeah!
Élections fédérales, parce que
avec
là,
beaucoup d'enthousiasme.
Il y a beaucoup d'élections qui s'en viennent. Avec beaucoup d'enthousiasme, Marie-Ève, coudonc. Il y a beaucoup d'élections qui s'en viennent dans la prochaine année. On en parlera sûrement aussi. On voulait pas, on sait qu'il y a eu des débats, toutes sortes de choses. On voulait pas, tu sais, rajouter au bruit qu'il y a sur la campagne électorale fédérale, mais on voulait quand même mentionner quelques points intéressants sur les enjeux autochtones et d'immigration. Donc, est-ce que je commence, Marie-Ève?
Ben oui, vas-y.
Vas-y.
Continue sur ta lancée.
Ben oui, après je te laisse le crachoir, comme on dit. Je vais y aller partie par partie rapidement, puis après juste les demandes de l'Assemblée des Premières Nations. Parti libéral du Canada, qui est au pouvoir, qui a fait quelques petites choses quand même depuis qu'il est là. Il a repris ses promesses du budget, dans le fond, du dernier budget qui a été adopté avant les élections. Donc, 1,4 milliard sur 5 ans dans les soins de santé destinés aux Autochtones. Promettent aussi de mettre fin à la discrimination dans les systèmes de santé du pays. On a vu des conférences, entre autres, là-dessus. 275 millions pour la revitalisation des langues et des cultures autochtones. 861 millions pour des polices autochtones dans les communautés, les services de police. Le Parti libéral promet d'arrimer les articles de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à la législation fédérale, s'attaquer à la surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de protection de la jeunesse, et pour les pensionnats, ben, financer les recherches pour les sépultures anonymes, démolition et reconstruction des bâtiments, et un monument à Ottawa afin de rendre hommage à tous les enfants. Sinon, le Parti conservateur, il n'y a pas grand-chose qui écoute ça, mettre en place une société canadienne autochtone qui produirait des analyses de marché pour encourager des investissements autochtones dans des projets d'exploitation des ressources naturelles et d'infrastructures.
Mm-hmm.
Il s'engage également à louer 10 millions de dollars par an aux organisations qui encouragent les partenariats entre les communautés autochtones et les promoteurs de projets de ressources naturelles, encore. Et les conservateurs comptent aussi travailler à l'élaboration des plans de gestion entre les détenteurs des droits autochtones et les pêcheurs commerciaux, tout en respectant l'arrêt Marshall. En tout cas, c'est du charabia, là. Pour ceux et celles qui ont compris. Le NPD a un autre ton. On parle de génocide culturel et de vol de terre en partant. Que les politiques de réparation soient justes et équitables à long terme. Le NPD s'engage à la pleine mise en œuvre des recommandations de la Commission Vérité, Réconciliation et de la Déclaration de l'ONU. Mettre en place un Conseil national de réconciliation chargé d'assurer la surveillance et la reddition de comptes. Ça peut être intéressant. Une stratégie canadienne de logement autochtone élaborée avec les peuples et ce serait dans les 100 premiers jours au pouvoir. Accorder tous les investissements nécessaires pour l'eau potable et lever les avis d'ébullition.
Oui, parce qu'il en reste 51 actuellement.
Exactement. T'es à jour, Marie-Ève.
N'est-ce pas?
Et appliquer le principe de Joyce en santé et des nouveaux programmes scolaires en histoire pour que l'histoire des Autochtones soit mieux représentée dans le système scolaire et dans les livres. Bloc québécois, ben, veut abroger la loi sur les Indiens, la remplacer par des ententes de nation à nation entre le Québec et les peuples autochtones, sur le modèle de la paix des Braves de 2002. Sinon, déclaration des Nations Unies, ils sont d'accord avec ça. Ils se considèrent comme un partisan de la première heure, le Bloc québécois. Je trouve ça très drôle. Le Parti vert, Marie-Ève, toujours la déclaration des Nations Unies. Adopter aussi les recommandations de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues, assassinées et la commission Vérité et Réconciliation. Sinon, une base de données nationale doit être créée afin de comptabiliser les cas de discrimination raciale et ethnique dans les interventions policières. Par rapport au conflit de pêche entre autochtones et pêcheurs commerciaux, le Parti vert dit soutenir les droits des autochtones issus des traités de l'arrêt Marshall et aussi promet d'augmenter le soutien gouvernemental aux autochtones vivant hors réserve. Et je termine avec le PPC.
Oui.
Parti populaire. Quatre principes pour les questions autochtones. Respect, liberté, équité, responsabilité. Il indique qu'il manque de véritables propriétés privées dans les réserves, parce qu'on sait que les Autochtones n'ont pas accès à la propriété privée. Et le PPC s'engage, entre autres, à assurer que les communautés seront impliquées dans les services qu'elles reçoivent et à examiner les dépenses pour certifier que les programmes soient mieux ciblés pour profiter aux populations autochtones. C'est bon, hein?
Oui.
Et je termine rapidement, Marie-Ève, avec l'Assemblée des Premières Nations, avec sa nouvelle chef, Rosanne Archibald. Cinq priorités. Changement climatique, croissance économique, respect des juridictions des Premières Nations, reconstruire et renforcer les Premières Nations au Canada et, bien sûr, le travail de réconciliation et de guérison. Est-ce que je prends trop de temps, Marie-Ève?
Un petit peu.
OK. Tu me laisses deux secondes?
Ouais, okay. Oui.
Donc, il parle de la création d'une organisation nationale vouée au processus de guérison et à la financer adéquatement. Ça ressemble à ce que le NPD proposait. Soutien pour la création de zones de conservation autochtone et la création de réglementations environnementales autochtones aussi, c'est intéressant. Un plan de relance post-pandémie. Une assez drôle, Marie-Ève. L'Assemblée a fait savoir qu'elle désirait obtenir pour ses membres les droits de produire et de vendre du cannabis. Et elle se dit en désaccord avec le chef conservateur qui estime qu'il est temps de relever le drapeau canadien qui a été mis en berne après la découverte des restes d'enfants cet été.
Mm-hmm.
Et je te parlerai une autre fois de la chicane entre l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador et le Bloc québécois
sur le
projet de loi 96, qui est la nouvelle loi 101.
Oui, sur les langues.
Sur la langue française au Québec.
Ouais.
Je te laisse la parole sur les enjeux d'immigration, Marie-Ève.
Ben écoute, sur les enjeux d'immigration, pas mal tous les chefs des partis fédéraux ont été muets. Si vous avez regardé, entre autres, le débat des chefs hier, vous avez pu constater à quel point il s'agit d'une question vraiment négligée de l'actuelle campagne électorale. À part les réfugiés afghans, puis une question qui a été posée au chef du Bloc sur sa volonté de prioriser les réfugiés qui parlent français, rien. Donc, rien sur les travailleurs, travailleuses, immigrants, temporaires, rien sur l'entente des tiers pays sûrs, sur les longs délais d'attente, peu importe le type de statut demandé ou la catégorie d'immigration. Rien non plus sur la régularisation, des fameux anges gardiens. Rien sur les détentions. Bref, encore une fois, la seule façon dont l'immigration a été abordée, c'est comme moyen de résoudre la pénurie de main-d'œuvre.
Évidemment.
Dans le contexte, fait que moi, j'ai décidé de pas comme faire la passer
liste.
Au travers la liste de ce que tous les partis proposent, mais plutôt de me concentrer en fait sur le Parti conservateur, parce que dans le contexte des élections fédérales actuelles, ben les conservateurs, Darren O'Toole semble être en légère avance, en tout cas là dans les sondages par rapport aux libéraux de Trudeau. Ben il y a le Migrant Rights Network, qui est un réseau dont on vous a déjà parlé, un réseau de groupes de personnes migrantes qui luttent pour la justice migratoire, qui a lancé en fait une campagne d'éducation populaire pour dénoncer le plan des conservateurs en matière d'immigration, qu'il qualifie là, de plan à la Trump et qui se décline en gros en 6 points. D'abord, la volonté d'instaurer une police des frontières à l'image de celle des États-Unis et d'élargir l'entente des tiers pays sûrs. Ensuite, la fin du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement, qui est un programme qui accompagne les demandeuses du statut de réfugié dans leur réinstallation au Canada.
Ben oui.
Les conservateurs veulent plutôt le remplacer par un système de parrainage en genre de PPP, ce qui équivaut dans les faits à une privatisation et donc à des coupes dans un programme d'aide où les ressources sont déjà insuffisantes.
Mm-hmm.
Ensuite, faciliter l'embauche des travailleurs, travailleuses migrants sur des permis fermés, c'est-à-dire des des permis qui sont liés à un employeur donné. Les conservateurs veulent aussi rendre l'obtention de la résidence permanente dépendante du parrainage par un employeur. Donc, ce sont deux mesures qui feraient seulement, dans le fond, renforcer le pouvoir et le contrôle des patrons sur les travailleurs-travailleuses, augmentant du même coup leur vulnérabilité
ben
et
oui,
leur exploitation.
Leur dépendance, oui, oui.
C'est ça. Ensuite, l'application du principe, si on veut, là, je le traduis par demandeur-payeur, ce qui favorise évidemment les riches au détriment des plus pauvres, parce que là, les riches, eux, auraient les moyens de...
D'acheter
l'anglicisme, ouais, ben, ou de fast-tracker, si on veut, excusez l'anglicisme, leur dossier. Donc, au détriment des plus pauvres, qui se trouvent à être la très grande majorité des personnes migrantes. Aussi, l'instauration de nouvelles exigences pour les parents et grands-parents afin d'être admissibles au programme de réunification familiale, par exemple, la maîtrise d'une des deux langues officielles. Et finalement, ben évidemment, qui dit conservateur dit la loi et l'ordre, donc plus de police et de prison, évidemment. Donc, le réseau Migrant Rights Network organise aussi une campagne pour faire pression auprès des différents partis pour demander la régularisation et un statut permanent pour tous et toutes. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter le site du Migrant Rights Network qui est le www.migrantrights.ca.
Donc, c'était le programme très agréable et très joli du Parti conservateur. C'est la suite de Kenny Harper des années 2000, mais en 2.0, hein,
oui,
finalement,
c'est ça,
avec autour les compagnies.
Sur les stéroïdes, mettons.
Oui, tout à fait, c'est assez dangereux. Donc, merci Marie-Ève. Mais sinon, vous parlez un peu des élections fédérales. On en parlera peut-être dans deux semaines parce qu'on aura eu les résultats de l'élection. Donc, on verra si ce sont lesquels conservateurs sont rentrés, finalement.
C'est ça.
Donc, on va y aller en musique avec une nouveauté d'avril 2021. Un artiste s'appelle Paul Jacobs, un artiste de Montréal qui est actif depuis 2013. Son dernier album d'avril dernier s'appelle Pink Dogs on the Green Grass. On va écouter la pièce Alf Rich Loner. C'est sur Bounce on Record et peut-être vous dire qu'il est en concert le 24 septembre dans le cadre de Pop Montréal au House Gang Plaza sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Donc on y va avec Paul Jacob. All of my toujours à l'émission Les Apatrides Anonymes, c'était Paul Jacobs. On poursuit avec une entrevue que Simon, notre collègue, a préenregistrée dans les derniers jours avec Muriel Chanchou, qui est du groupe de travail sur le quartier chinois de Montréal. Elle va nous parler de la situation actuelle difficile du quartier, son avenir aussi. Si vous voulez vous référer à des informations plus complémentaires, il y a un article qui est paru dans Urbania le 11 août 2021 avec Muriel et d'autres personnes. Donc, on écoute un premier bloc d'une douzaine de minutes de cette entrevue réalisée par Simon.
Je suis en compagnie de Muriel Chanchou qui vient nous parler sur les Apatrides pour, ben, en fait, au nom du groupe de travail pour le quartier, sur le quartier chinois de Montréal. C'est ça le nom complet officiel?
Oui.
Oui,
exactement. Voilà. Parce que on a l'habitude de le dire en anglais, mais le nom français, c'est le groupe de travail sur le quartier chinois, oui.
Pourquoi un groupe de travail sur le quartier chinois? C'était parti comment, le groupe de travail?
En fait, c'est, je pense que c'est en 2019, si ma mémoire est bonne, une des membres fondatrices, Bethany Orr, qui a une grand-mère à l'époque qui habite, qui habitait sur Saint-Dominique dans un une des résidences pour personnes âgées, enfin un appartement pour personnes âgées. Mm-hmm. Puis de la fenêtre de chez sa grand-mère, ben, elle a vu qui se tramait un gros trou au coin de Saint-Laurent et Vigée. Un chantier de construction. Puis on allait construire des édifices à condos de luxe au nom de Serenity. Donc là.
Oui, qui veut peut-être rappeler l'héritage chinois d'une manière très branding.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est plutôt un branding du centre-ville. Je pense que pas loin de là, proche du palais des congrès, il y a Humanity. Donc, je pense que c'est comme l'idée d'une continuité, on dirait. Mais je pense pas que ça se veut en lien avec le quartier chinois parce que, justement, peut-être pas ce projet-là, mais il y a un autre projet de l'autre côté, en face, toujours sur Vigée Saint-Laurent. Lui, il s'appelle One Vigée et lui, carrément, dans les prospectus, ils ont photoshopé les portes du quartier chinois, donc elles ne sont plus là.
Ils ont retiré visuellement les portes. On a comme effacé, finalement, toute référence au quartier chinois.
Oui, c'est ça. Donc, au fond, quelqu'un qui irait sur le site ou qui regarderait leurs dépliants ne saurait pas ce qu'ils sont au quartier chinois s'ils ne viennent pas de Montréal. Donc ça, c'est carrément de l'effacement culturel.
C'est quand même particulier, là. C'est de l'invisibilisation même, si on peut dire.
Oui, à fond. Et c'est pour ça qu'on fait, Bethany, à l'époque, elle s'est insurgée, puis avec d'autres citoyens bénévoles, des membres de la communauté qui fréquentent le quartier chinois, elle a décidé de créer un groupe de travail qui rassemble en fait des bénévoles comme moi, qui sont il y en a qui sont des professeurs en urbanisme, moi je suis en littérature au cégep, il y a une planificatrice urbaine qui a une grande expertise à Vancouver mais qui habite maintenant à Montréal, il y a une réalisatrice de documentaires d'origine chinoise, elle est issue de la quatrième génération d'immigrants chinois et elle...
qui ont toujours fréquenté ou habiter le quartier.
Oui. Tout à fait. Puis je pense que son arrière-arrière-arrière-grand-père ou peut-être grand-mère, je ne sais plus c'était quoi l'histoire, mais qui... elle est l'une des descendantes de la famille qui détenait les Nui Wings.
Ben c'est ça. C'est un des bâtiments justement qui fait l'objet qui a été acheté, je crois, par un promoteur qui n'est pas reconnu pour des pratiques particulièrement... je sais pas comment dire ça. En tout cas, vous voyez ce qu'on veut dire, là, mais qui a acheté, je crois, même plusieurs bâtiments dans le quartier chinois et mm-hmm. ça sent pas juste la rénovation, mais ça sent la démolition.
Lorsque ce promoteur a acheté les bâtiments, ben, en fait, il y a encore des appartements, donc des genres de triplex. La plupart des locataires ont été invités à quitter. Invité entre guillemets. Puis, il y a un dernier locataire qui est au troisième étage qui s'appelle Jean-Philippe Riopel.
Qui est mentionné dans l'article d'Urbania. J'en profite pour peut-être juste nommer l'article. C'était « Quartier chinois aux barricades pour défendre un héritage menacé ». Donc, pour revenir à ce locataire-là dont tu parlais.
Bien, en fait, lui, il y vit encore, donc en jardinant dans la cour, parce qu'il y a une belle cour intérieure, paraît-il, d'origine. Je pense que ça remonte à 1800 et quelques, sinon même bien avant, parce que là, les dates historiques, je suis un peu mêlée. Mais du moins, durant son jardinage, il a découvert justement des artefacts comme des instruments ou des béchères qui appartenaient à l'ancien hôpital chinois du tout début.
que le quartier chinois est enraciné dans ce secteur-là.
Oui.
Et qui a survécu malgré toutes sortes d'affronts de, tu sais, on parle de l'autoroute Ville-Marie, Palais des Congrès, Complexe Guy Favreau. Là, il y a le REM, on sait pas encore, c'est un peu opaque, on sait pas exactement quelle forme ça va prendre. Si c'est la forme qui est annoncée, ça va être une manière d'enclaver supplémentaire. D'ailleurs, il y a une lettre du groupe de travail qui a été publiée sur la page Facebook.
Oui.
En réaction à ce tronçon aérien du REM qui serait sur Nain-l'Évêque, qui, on verrait même plus la porte avec les lions, là, non plus.
Non, c'est ça. C'est la lettre d'opinion qu'on vient de publier dernièrement, le 31 août, d'ailleurs, sur notre page Facebook et aussi qu'on a envoyé aux médias francophones, parle justement de l'emprisonnement que ça créerait parce qu'en fait, le quartier chinois a déjà perdu beaucoup de son territoire depuis les années 80. Donc, sur papier, on découvre qu'on a perdu pas loin de 6 acres de territoire.
Pour un quartier qui était pas très grand non plus à la base.
Non, puis qui était très résidentiel surtout. C'est que quand on regarde des photos d'archives, ben, on voit vraiment des vieux triplex, que la gauche tiers n'était pas piétonnière, mais qu'elle était c'était une petite rue avec beaucoup de familles y vivaient, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt des résidents plus âgés, certes, mais n'empêche qu'il y a encore des résidents qui y vivent.
Donc, deux menaces très concrètes actuellement. Donc, il y a le REM dont on parlait, le réseau express métropolitain et l'appétit vorace des promoteurs immobiliers qui achètent morceau par morceau des pans qui sont culturellement significatifs pour les remplacer par du générique, du condo générique de luxe. Tu parlais de Toronto tantôt, qui probablement a un quartier chinois plus grand que celui de Montréal, mais qui vit une spéculation encore plus effrénée. Je ne sais pas s'il y a des parallèles qui peuvent être faits en Toronto, Vancouver, Montréal, et si vous vous inspirez même des fois de groupes de dans ces villes-là qui tentent de préserver leur héritage ou...
Oui, ben on est en collaboration et en communication avec les autres groupes des autres quartiers chinois. En fait, en joignant le groupe, moi-même, mon désir de joindre le groupe, c'était d'une part de reprendre, de me réapproprier mon identité chinoise, mais de manière concrète et d'une façon activiste aussi, pour veiller surtout à la pérennité de l'identité culturelle, parce que c'est une chose de parler de patrimoine bâti, mais il y a aussi l'héritage culturel immatériel qu'on dit souvent. Puis le quartier chinois de Toronto, oui, il est plus grand, mais a aussi les mêmes combats parce qu'il est au centre-ville, parce qu'il est au cœur d'un coin très passant également. Lui-même, il subit une reconstruction pleine de menaces de rénoviction, puis aussi il y a plusieurs groupes dont Friends of Chinatown qui sont là depuis plusieurs années, puis qui créent des actions communautaires pour rassembler les gens, pour se réapproprier l'identité, puis aussi durant la pandémie pour contrer le racisme et venir en aide justement aux résidents et aux commerçants qui peinent à survivre en raison du racisme véhiculé envers les Asiatiques.
Tu as mentionné dans un des articles que j'ai lu l'idée d'un centre culturel, parce que actuellement pour beaucoup de gens, c'est des restaurants, le quartier chinois, ils ne voient pas beaucoup au-delà de ça. Toi, tu faisais le parallèle peut-être un peu avec le Goethe Institut, d'avoir quelque chose vraiment contemporain où on diffuse la culture, les langues, des traditions. Donc, je ne sais pas si c'est une idée qui est à quel stade actuellement. Est-ce que c'est vraiment au niveau embryonnaire ou il y a des démarches qui ont été faites?
C'est encore très embryonnaire. C'est sûr que moi, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai joint le groupe, parce que lorsqu'on parlait du quartier chinois puis de sa préservation, c'est aussi surtout parler de sa vitalité. Puis je me disais, comment ça se fait? On a déjà eu en fait un centre culturel il y a quelques années. Pour toutes sortes de raisons, le centre n'existe plus.
OK. J'avais jamais connu cet endroit-là.
Moi non plus, d'ailleurs. Oh. c'est pas resté très longtemps. C'est peut-être un an ou deux au maximum. Et je pense qu'il n'y avait pas eu... On n'avait pas encore vraiment les bonnes ressources pour avoir une programmation en tant que telle. Mais du moins, il n'existe plus. Puis je trouve ça dommage. Et surtout qu'il était sur la rue Clark, alors que cette rue, elle est présentement très déserte. Le centre culturel auquel je pense et qu'au sein du groupe, on est en discussion parce qu'en fond, on aurait besoin de fonds, ce serait d'avoir une forme de fondation qui serait à mi-chemin, oui, comme l'Institut Goethe ou comme le Centre Phi, donc quelque chose qui desservirait la communauté montréalaise dans son ensemble, autant pour les communautés asiatiques, mais aussi montréalaises.
Et qui ramène les jeunes d'origine asiatique aussi, qui pour créer un meilleur, peut-être un sentiment d'appartenance, puis une plus grande vitalité, comme tu mentionnais à quelques reprises.
Ouais,
aussi.
Oui, puis peut-être aussi un échange entre générations, parce que là, il y a beaucoup d'associations claniques dont les membres sont vieillissants. Et je pense que le transfert intergénérationnel ne se fait pas au même niveau. Et peut-être que les jeunes, bien qu'ils fréquentent le quartier chinois pour aller y manger, ben, je trouve qu'il n'y a pas d'endroit pour se rassembler réellement. Peut-être aller jouer au mahjong, aller prendre des cours de langue, quoi qu'il y a des écoles, mais c'est pas au même sens. Ou même, tu sais, je sais pas moi, d'avoir un cinéma. Je me souviens quand j'étais petite, il y avait un cinéma sur Saint-Laurent, avant René Lévesque.
Moi, j'aimerais ça aller voir des films chinois ou des films vietnamiens, peu importe.
Exactement, c'est
oui,
ça.
Oui.
Comme, donc, moi, je rêve d'avoir un truc qui est comme, un peu comme le Goethe, qui fait la promotion de cours de langue, une bibliothèque où on peut emprunter des livres bilingues, trilingues, qu'on fait la promotion d'artistes asiatiques d'ici et d'ailleurs. Donc, tu sais, quelque chose qui a aussi un échange international et ça demande beaucoup de temps, d'énergie et de fonds, forcément. Pour l'instant, on est tous bénévoles puis on a tous plein d'idées, mais on manque de financement puis il faut qu'on réfléchisse à des financements, en fait.
Mais je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui vous appuierait pour un centre culturel asiatique, là. Et tu parlais d'associations claniques tantôt. Peut-être, je pense, pour beaucoup d'auditeurs, auditrices, c'est peut-être pas, qui sont peut-être pas familiers avec ce concept-là, c'est, ça marche par nom de famille, si je comprends bien.
Ouais, c'est ça.
Donc, toi, t'es une digne représentante des Chan.
Ouais, c'est mon nom. mais en fait, OK, je l'avoue, je suis jamais allée parce que.
Des événements claniques ou des.
Ben, tout simplement dans mon association, parce okay. que, un, je sais pas où elle est exactement. Parce qu'en fait, avant de me joindre au groupe, je regardais pas vraiment l'architecture du quartier chinois. Je regardais pas ce qui se passait au troisième étage d'un bâtiment sur la Gauchetière. Mmh. Et il y a beaucoup de ces associations qui se trouvent au deuxième, troisième étage. Et
OK,
on
qui
voit,
ont des locaux physiquement.
Oui,
OK.
Qui ont vraiment... Ben, en fait, dont les immeubles leur appartiennent. Et en chinois, on voit la pancarte avec le nom d'association. Donc, il faut sonner. Et au fond, j'y vais pas aussi parce que, pour l'instant, ça me semble un petit peu patriarcal quand même. Parce que moi-même, ayant grandi dans une famille chinoise, je sais que le patriarche est très important. Puis toute la filiation aussi. Et je pense que, c'est des pères de famille ou des pères de clan qui organisent leurs activités, mais je sais pas ce qu'ils font. T'sais.
Peut-être une petite révolution à apporter là-dedans aussi.
Ben, c'est ça. C'est à nous, entre guillemets, les jeunes, de s'y intéresser, puis d'y aller, puis de s'impliquer. Donc, au fond, il y a beaucoup de choses à faire.
On aura la suite de l'entrevue avec Myriel Chanchou dans les prochaines minutes. Pour l'instant, je vais vous parler de Fairy Creek. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Grosse mobilisation qui se passe depuis plus d'un an sur l'île de Vancouver, qui est vraiment une très grosse mobilisation, grosse confrontation, beaucoup d'arrestations, beaucoup de répression. Et on en entend à peu près pas parler au Québec. Là-bas, ça fait partie un peu de la campagne électorale fédérale. Ça a fait partie de la campagne électorale provinciale il y a quelques mois. Donc, au dernier bilan, c'est-à-dire la semaine passée, c'était le 110e jour de l'application de l'injonction par la police, le jour 391 de l'action directe qui a commencé donc plus d'un an sur les territoires Pachedat et Ditidat des nations autochtones régionales. Et il y a eu plus de 850 arrestations depuis un peu plus qu'un an, dont des gens qui ont eu plein de conditions de pas le droit de manifester et toutes sortes de choses. Il y en a qui ont des poursuites. Peut-être vous expliquer rapidement que depuis plus d'un an, des centaines de Canadiens de tous horizons, avec des Autochtones locaux et d'ailleurs, se relaient pour bloquer l'accès aux zones de coupe forestière d'une région quand même assez reculé de l'île de Vancouver. Il participe ainsi à ce qui est en train de devenir l'un des plus grands mouvements de désobéissance civile de l'histoire du Canada. Quand même, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde impliqué.
Jusqu'à Wet'suwet'en?
Oui, oui, puis ça a duré plus longtemps, donc il y a plus d'arrestations. Puis il y en a eu d'autres encore britanniques dans les dernières années aussi, des importants. Mais tu as raison de mentionner que Wet'suwet'en, ça a eu plus d'impact partout au pays, mais au niveau local, c'est vraiment moins long. Et ça, il y a plus de monde impliqué, et plus de monde arrêté, et plus de répression. C'est une des grandes compagnies forestières privées de la Colombie-Britannique, le Teal John Group, qui possède 59 000 hectares dans le sud-ouest de l'île, qui est à l'origine de toute cette coupe-là. La forêt de Fairy Creek, elle est vieille de centaines, voire de milliers d'années, et abrite certaines espèces d'arbres géants, comme le cyprès de Nootka. On a vu des arbres géants coupés énormes. Des espèces d'oiseaux menacés, comme le guillemot marbré, y trouve aussi refuge. Donc, c'est une vraie biodiversité importante. Le blocus est né en août 2020, lorsque des vidéos ont montré que de nouveaux chemins forestiers étaient en train d'être ouverts dans la région par la compagnie. Donc, sur les kilomètres encore occupés par les protestataires, des tranchées ont été creusées et des barricades ont été dressées. Il y a aussi des tripodes. Il y a aussi des gens qui s'enchaînent dans le ciment. C'est vraiment la désobéissance civile comme on a connu des années 90 beaucoup.
L'action directe.
L'action directe non violente, entre guillemets. Coordonnée par un groupe d'opposants regroupé sous le nom de Rainforest Flying Squad, le mouvement de Fairy Creek ne semble pas s'essouffler malgré une injonction de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui date d'avril 2021, donnant l'autorisation aux forces policières de défaire les barricades pour mettre fin au blocage. Beaucoup d'interventions policières, parfois musclées, ont été largement diffusés dans les réseaux sociaux dans les derniers mois, particulièrement dans les dernières semaines. C'est de plus en plus violent. En juin, les trois premières nations, dont la nation Pachedat, ont demandé au gouvernement de la Colombie-Britannique de suspendre pour 2 ans les coupes forestières sur le territoire de 2000 hectares, qui est plus petit que le 59 000 de tantôt, là, qui leur appartient. La demande a été acceptée, mais n'a pas mis fin au blocage parce que les protestataires demandent un moratoire plus large sur l'industrie forestière dans cette région. Peut-être vous dire qu'en juin, il y a un juge qui a qualifié, parce qu'il y avait eu des plaintes déposées par des journalistes et des aînés autochtones contre la GRC, contre les violences de la GRC, aussi les zones d'exclusion de la GRC, parce qu'ils excluent les journalistes, ils excluent les gens pour pas qu'ils approchent des campements de manifestants, qu'ils puissent les réprimer à l'abri des regards. Donc, il y a même un juge de la Cour suprême qui a qualifié les actes d'illégaux de la GRC, que c'était exagéré, que les zones d'exclusion étaient disproportionnées selon la situation, par rapport à la situation, et que les interventions devraient arrêter de cette façon-là. Et c'est intéressant parce que la GRC fait juste argumenter qu'ils appliquent l'injonction, mais bon, il y a toute une marge de manœuvre qu'ils ont, puis on sait dans quel sens ils vont. Sinon, peut-être vous dire aussi que, finalement, la commission d'examen des plaintes relatives à la GRC a reçu près de 100 plaintes sur les violences policières, donc il y aura enquête sur plusieurs d'entre elles. Il y a eu des manifs au mois d'août devant plein de bureaux de la GRC partout en Colombie-Britannique. Et récemment, c'est des images de policiers qui lancent du gaz poivre aux manifestants qui se tiennent ensemble en plein dans leur face, qui a fait le tour un peu du monde, finalement, et qui fait quand même la Chambre de commerce de Port Renfrew est découragée parce qu'il y a beaucoup de touristes qui ont annulé leur séjour dans la région, soit pour qu'on boycotte, ou surtout parce qu'ils pensent que c'est une région insécure, mais ça se passe dans le bois assez éloigné. Ouais. Peut-être en terminant, Marie-Ève, dire que pour information, last10forforest.com. Il y a un mini documentaire sur leur page Facebook qui s'appelle Fairy Creek Blockade. Ça, c'est le nom de la page Facebook. Le mini documentaire s'appelle Police Industry Misconduct Testimonial sur la violence policière, sur les blocages. C'est vraiment un beau documentaire. Un bon documentaire bien fait. Il y a un long documentaire qui s'appelle Rematriation qui s'en vient bientôt, qui est en tournage. Ils demandent du financement pour ça. Et à date, ils ont ramassé 300 000 $ pour tout ce qui est juridique, légal, pour les communications. Et en exemple, ils disent qu'ils ont besoin d'argent pour remplacer les véhicules endommagés et saisis par la GRC, parce que les véhicules servent à bloquer aussi les chemins forestiers pour la compagnie, mais pour la GRC aussi. Et la GRC saisit les véhicules, donc il y a plein de... Allez voir les vidéos, c'est vraiment Fairy Creek, puis au Québec, nada.
On n'en parle pas. Non, c'est ça, on n'en parle pas vraiment.
On n'en parle pas. C'est loin, loin, loin.
Ouais.
Donc, voilà, Marie-Ève... pour cette mise à jour. On en reparlera peut-être dans les prochains mois, voir la suite des choses. Les Autochtones sont impliqués là-dedans aussi. On va y aller en musique. avec Carimouche featuring Flavia Coelho, la pièce Princesse au pluriel de l'album Folie Berbère sorti en janvier dernier. Troisième album pour cette artiste française, Carimouche, qui est une rappeuse, qui est active depuis 2010. Et Flavia Coelho, Marie-Ève.
Ben oui, Flavia Coelho, ça a été ma toune. Pas préférée, mais la toune que j'avais choisie pour représenter l'année qu'on venait de passer là, après le notre 50e émission.
Exactement.
C'est ça, avec la pièce Bonne Nouvelle.
Oui, de Flavia Coelho, qui est d'origine brésilienne, qui vit en France.
En France maintenant, oui.
Donc on va écouter la pièce Princesse de Carimouche avec Flavia Coelho. Carimouche avec la pièce Princesse. Un peu pop le refrain, mais les couplets avec le texte est vraiment intéressant, plus rappé. Donc voilà, une nouveauté relativement récente. On va poursuivre avec le deuxième bloc de l'entrevue que notre collègue Simon a fait avec Muriel Chanchou du groupe de travail sur le quartier chinois de Montréal. C'est à peu près une dizaine de minutes. On vous revient ensuite pour d'autres informations et d'autres musiques aux Apatrides Anonymes.
Rebonjour Muriel, toujours Simon au micro pour une entrevue avec Muriel Chanchou du groupe de travail sur le quartier chinois de Montréal. Parler plus de, ça fait aussi les médias dans la dernière année et demie, le racisme anti-asiatique qui existait avant la pandémie forcément, mais qu'est-ce que la pandémie a changé selon toi?
Ben, je pense que ça a créé beaucoup de préjugés à l'égard de la communauté asiatique, surtout surtout lorsque Trump a nommé le
Chinese virus.
Oui, c'est ça, a nommé le virus comme un gros péril jaune. a carrément dit que c'était un virus chinois ou de Wuhan. Donc, je pense que c'est ce que ça a créé. Ça a beaucoup créé de peur et d'ignorance, comme toute forme de xénophobie ou de racisme. Et ça a créé une forme d'exclusion dans le quartier chinois. Donc, les gens avaient peur d'y aller, ne serait-ce que pour s'y promener, mais aussi avaient peur d'aller dans les commerces.
Ah ouais, OK.
Il y a des commerces qui ont été vandalisés. Il y a des commerces qui ont dû fermer parce qu'ils n'y arrivaient plus, parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer, comme tous les autres commerces aussi d'ailleurs. Mais je pense que le quartier chinois a survécu, notamment grâce aux résidents qui y vivent toujours. Mais c'est surtout le vandalisme et l'ignorance.
Vandalisme avec propos haineux quand même.
Souvent. Avec propos haineux, puis aussi qu'on a carrément saccagé des vitrines, qu'on a tagué des murs à
les
l'intérieur.
Lions. Les lions devant une des portes, je crois, avaient été aussi vandalisés.
Oui, oui. Mais même beaucoup de pagodes aussi à travers Montréal ont subi du vandalisme directement, que ce soit les lions, que ce soit les déesses, là, les statues de déesses ou de Bouddha. Mm. Mais concrètement, je pense que aussi la population asiatique a subi beaucoup de cris haineux dans le métro.
Il y a quand même eu une belle prise de parole suite à ces événements-là. Beaucoup de jeunes, entre autres, qui ont commencé à dénoncer publiquement le racisme anti-asiatique. Ça faisait quand même du bien à voir.
Mm-hmm.
Je sais pas, le groupe de travail, entre autres, a pris position sur ces enjeux-là aussi?
Oui, en fait, de concert avec les Chinois progressistes du Québec, un autre groupe de justice sociale, y a eu notamment la marche contre le racisme anti-asiatique, mais aussi à travers les vidéos, les clips documentaires qu'une des membres du groupe, Karen Cho, une documentariste, réalisatrice, qui justement est en train de faire un documentaire sur la disparition des quartiers chinois en Amérique du Nord.
OK, ça va être intéressant.
Donc, elle travaille beaucoup sur le terrain, est allée à Vancouver, à Edmonton, à Toronto, à Montréal et aussi à New York. Bref, tous les grands quartiers chinois d'Amérique du Nord. Elle montre justement ces parallèles qui actuels entre ces menaces de disparition et aussi comment que le racisme est vécu dans chaque quartier chinois. Donc, au fond, comment qu'on le voit, nous, en tant que groupe, c'est lorsqu'on dénonce ces mesures haineuses, ces actes haineux, on est là pour essayer de trouver des solutions pour voir comment on peut aider la population qui y vit, pour les accompagner, donc pour les protéger, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on partirait pas une forme de groupe, d'escouade qui, si je sais pas, il y a une vieille femme, une vieille résidente qui a besoin d'être accompagnée jusqu'au métro le soir, ou est-ce qu'elle a besoin qu'on aille faire son épicerie pour elle, ou des choses comme ça. Donc, c'est toutes sortes de mesures auxquelles on réfléchit. Comment est-ce qu'on peut aussi contrer l'ignorance en éduquant les gens. Donc, il y a une exposition qui est en cours jusqu'au 15 octobre qui s'intitule « Dialogue avec la communauté sino-montréalaise ». Et ça a été présenté avec le Centre des mémoires montréalaises et des acteurs du quartier chinois pour parler de l'histoire du quartier chinois et de la communauté qui y vit. Donc, il y a des portraits, des photos et aussi des témoignages de chaque personne.
Les commerçants vandalisés, eux, peut-être peuvent des fois avoir une approche plus policière ou plus répressive. Donc, toi, personnellement, t'es plus pour une approche de prévention, donc, si je comprends bien. Et le groupe dont tu fais partie aussi.
Oui, à titre personnel, forcément, je pense que augmenter la présence policière n'aiderait pas nécessairement à régler les sources de problèmes. Au contraire, ça pourrait peut-être en créer d'autres dans la mesure où, forcément, le quartier chinois est au centre-ville, proche de plusieurs refuges, soit pour femmes, soit pour même sans-abri. Donc
personnes autochtones.
Personnes autochtones,
aussi,
notamment. Et forcément, on cohabite avec plusieurs communautés et toutes les communautés traversent le quartier chinois, notamment. Donc, pour ma part, je ne souhaiterais pas qu'une augmentation de la présence policière, de la surveillance policière, je ne souhaiterais pas que ça stigmatise davantage toute forme de personnes qui est déjà en marge de la société. Donc, c'est plus dans ce sens-là que nous, au sein du groupe, on promouvoit justement plusieurs dialogues avec d'autres communautés, puis On est en accord avec plusieurs luttes aussi, donc on est autant allié avec la communauté autochtone que noire et on essaie justement de créer ces dialogues-là, de réfléchir à long terme comment on peut partager toutes ces luttes et les mettre en commun.
Mais toi, est-ce que tu as déjà vécu des agressions racistes à caractère anti-asiatique? Ou
j'ai plutôt assisté à des micro-agressions comme j'étais en file au Dollarama, puis durant la pandémie, il y a un an. Puis là, j'ai vu une Asiatique sortir du Dollarama, puis un homme lui dit « Tu retourne dans ton pays ou va-t'en », puis elle était juste comme choquée et juste partie.
La plupart sont nés ici en plus, là, mais
exactement.
C'est difficile. Je retourne où exactement?
Exactement, donc c'est ces micro-agressions où on prend pour acquis qu'on vient d'ailleurs ou qu'on est tout de suite automatiquement des étrangers ou qu'on est synonyme du virus, donc c'est plus dans ce sens qu'on le vit au quotidien.
Comment, je pose la question directement, moi je suis issu de la majorité blanche, mes deux co-animateurs et mon co-animateur et ma co-animatrice aussi. L'idée, nous, on aimerait ça plus se présenter dans une posture d'allié. C'est évident qu'on va pas prendre la parole à la place des membres de chaque communauté. La meilleure façon d'être un allié, selon toi, dans cette lutte contre le racisme anti-asiatique, ce serait quoi?
Déjà, tu le fais bien, je pense, en m'invitant à parler. Donc
oui, puis en te posant la question aussi.
Mais je pense que déjà, c'est donner la parole justement à toutes ces communautés, à toutes ces minorités, comme vous le faites déjà à travers l'émission, de donner des occasions de collaboration, de se manifester,
des acteurs asiatiques dans les téléromans québécois, disons que il y en a pas beaucoup, hein.
Non. Puis d'ailleurs, et s'il y en a, peut-être qu'ils sont un peu tokenisés. Donc, je sais plus si c'est le mot qu'on peut utiliser en français.
On sait ce qu'on comprend ce que tu veux dire, là. On l'utilise abondamment à l'émission aussi.
Mais c'est au sens que moi, j'aimerais pas être, être embauché juste parce qu'on a besoin de remplir le quota pour les minorités visibles. Donc, vraiment, peut-être, oui, de mettre de l'avant toutes ces communautés, mais aussi pas juste en fonction de leur origine, mais aussi en fonction de leur rôle, donc de leur donner des vrais rôles qui ont de l'allure, que c'est pas stéréotypique, que ce serait le yakuza ou le mafieux ou le karatéka. Donc, parce que des fois, nous, les Asiatiques, on subit aussi les stéréotypes positifs ou du nerd ou
qu'il faut performer aussi, absolument,
j'imagine. Ouais, de l'homme respectable ou de la femme respectable qui est obéissante, donc c'est aussi casser ces clichés dits positifs mais qui nous désavantagent parce qu'on du coup on est cantonné dans ces images-là aussi.
Ben, il va falloir qu'on mette un terme à l'entrevue bientôt. On va revenir sur quelques références. Tu parlais d'une exposition tantôt qui s'appelle... voyons, j'ai oublié le nom. C'est jusqu'au 15 octobre.
Dialogue avec la communauté sino-montréalaise.
C'est à quel endroit?
C'est dans le quartier chinois. Donc, ça commence à côté du Palais des Congrès, sur la gauche de serre. Puis ça longe toute la rue piétonne de la gauche de serre. C'est dehors.
Okay.
Donc, c'est des panneaux, portraits, avec des photos et des bouts d'histoire. Donc, ça, c'est jusqu'au 15 octobre.
Tu me parlais en ligne « Je suis Montréal.net ». Qui est un gros site web avec énormément de contenu.
Oui, bien en fait, c'est un site web que j'ai découvert récemment. Puis, ils ont plusieurs projets. Puis, justement, il y a un projet dans lequel ça s'appelle untoldstoriesmontreal.com. Et ils font le partage de récits de migration de la communauté noire, communauté chinoise et autochtone. Donc, au fond, sur ces sites-là, sur ces pages-là, on retrouve plein de ressources. Et on voit, en fait, l'arrivée de ces communautés depuis la fondation, ou même avant la fondation de Montréal, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on traverse le 17e, 18e, jusqu'à maintenant. Puis, on voit la contribution de chaque communauté. Puis, c'est assez bien fait. Donc, il y a plein de témoignages de gens ici de la communauté.
Donc, ça, c'est sur je suis Montréal.net. Ben voilà, on va aussi inviter les gens à aller consulter la page Facebook du groupe de travail sur le quartier chinois de Montréal. Et nous, on va mettre toutes ces références-là dans notre page Facebook à nous, des apatrides anonymes. Muriel Chanchou, ben merci énormément pour cette entrevue. On va espérer que la bulle immobilière pète à Montréal pour question de donner un peu de répit à tous les quartiers, mais particulièrement aux quartiers chinois.
Oui, merci à toi, Simon, de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. À bientôt. Ciao.
Oui, vous êtes toujours aux Apatrides de Zananim. Merci à notre collègue Simon pour cette longue et intéressante entrevue. Je vous répéterai pas le sujet, vous l'avez entendu amplement. Donc, Simon sera de retour avec nous dans deux semaines. On va poursuivre à l'instant avec Marie-Ève qui nous a préparé un agenda d'événements particulièrement, principalement en présentiel. Donc, on est très content dans cette rentrée 2021. Donc, Marie-Ève, je te laisse la parole.
OK. Alors, j'y vais d'abord avec ce vendredi, soit demain, à 18h. Il va se tenir une manifestation antiraciste. La manif dont la thématique est « Le racisme systémique existe, arrêtez les excuses systématiques » est organisée par Go Gauche, un collectif multiforme pour la justice sociale et climatique. Sur la page Facebook de l'événement, on peut lire que la manifestation, j'ouvre les guillemets, s'inscrit dans une pas pire grosse campagne d'information et de mobilisation. Pendant 13 semaines, nous aborderons 13 enjeux intimement liés parce que tout est dans tout. Suivez-nous, venez nous jaser, engageons la conversation. Il existe déjà des pistes de solutions pour une véritable sortie de crise. Appliquons-les. Ne retournons pas à la vie d'avant. Créons tout de suite notre monde d'après. Rien de moins.
Donc, demain, on dit la date parce qu'on est déjà...
Demain, vendredi... Le 10 septembre, oui, c'est
18h au Parc La Fontaine.
Voilà. Le site web du collectif ne semblait pas encore fonctionnel quand j'ai voulu le consulter, mais vous pouvez par contre consulter la page Instagram de Go Gauche pour avoir une meilleure idée. Puis Go Gauche, c'est G-O Gauche, là.
Go Gauche.
Oui, c'est ça, avoir une meilleure idée des enjeux que cette campagne-là entend aborder. Donc, c'est à 18h au Parc La Fontaine, demain, vendredi 10 septembre. Ce week-end aussi, grosse fin de semaine, deux événements spécifiquement anarchistes vont avoir lieu. Samedi de 13h à 17h, il y a la librairie L'Insoumise et la bibliothèque d'Ira qui co-organisent un bazar de livres anarchistes dans la cour arrière de leur bâtiment du 2033 rue Saint-Laurent, dans la côte entre Ontario et Sherbrooke. Vous pourrez évidemment y faire le plein de livres sur une variété de sujets depuis une perspective anarchiste, mais aussi vous magasiner des patchs, des macarons et autres bébelles faites par des révolutionnaires. Le bazar va se terminer avec un 5 à 7 et une épichette de bledaine, donc c'est samedi à partir de 13h dans la cour arrière du 2033 Saint-Laurent.
Samedi le 11 septembre,
date fatidique. Détail important, apporter de l'argent comptant. Si vous êtes nostalgique du salon du livre anarchiste qui se tenait depuis plusieurs années au CEDA dans la petite Bourgogne, eh bien, après une édition en 2020 en ligne, le collectif du salon du livre organise cette année une version réduite en présentiel. Ce dimanche, là, on est rendu au
12 septembre,
merci Mathieu, au Parc La Fontaine aussi, plus précisément autour du Centre culturel Calixa-Lavallée. Ça a lieu de midi à 17h. Si jamais vous avez du matériel à distribuer, que ce soit des livres, des zines, de l'art, du matériel d'éducation populaire, etc., vous pouvez soit apporter une couverture ou une table et des chaises et vous y installer. Pas besoin de vous inscrire, vous avez juste à vous présenter sur les lieux. Le collectif a annoncé aussi qu'il allait animer 2-3 discussions, là, ateliers, et qu'il y aurait aussi du temps réservé pour les discussions auto-organisées de façon spontanée. Il y a Bouffe contre le fascisme qui va être là aussi avec de quoi se sustenter. Je vous rappelle les infos, ce dimanche 12 septembre à partir de midi au Parc La Fontaine autour du Centre Calixa-Lavallée. Et je vais terminer avec deux événements culturels. Mm-hmm. D'abord, le 11 septembre, il y aura Afflux, biennale transnationale noire qui présente des expositions. Afflux, en fait, ça commence le 11 septembre, les mm-hmm. premiers événements. donc qui va présenter des expos, performances et conférences d'artistes afro-descendants, afro-descendantes, soit des Amériques ou d'Europe, mais aussi d'artistes africains qui vivent hors du continent. La biennale va se tenir jusqu'au 11 décembre dans divers lieux et va présenter les œuvres de 25 artistes en tout là, de 17 origines différentes. Le titre de la biennale Afflux vient de cette volonté de s'intéresser à la richesse des flux de personnes, justement, des flux migratoires, culturels et identitaires. Je vous invite à visiter le site web pour toute la programmation que je vais vous donner. Mais j'attire votre attention sur la première exposition là, qui s'ouvre à la Galerie Armure, qui, soit dit en passant, fête ses 25 ans cette année aussi. Donc, s'ouvre ce samedi 11 septembre, comme je le disais, qui va avoir lieu jusqu'au 23 octobre, cette exposition. Il s'agit de Monde Bossal, une exposition collective d'une quinzaine d'artistes qui interrogent les identités noires. Donc, c'est à la Galerie Armure. C'est sur Saint-Hubert, là, tout près du métro Rosemont. Et le site de la biennale, c'est www.afflubiennale.org.
Jusqu'au 11 décembre,
puis cette première expo-là qui est jusqu'au 23 octobre. Il y a plusieurs lieux, là, espaces, centres d'artistes qui participent à Montréal, mais aussi, je sais que le Musée des Beaux-Arts aussi, puis je pense le MAC va participer
à cette biennale-là.
Donc, et finalement, vous avez jusqu'au 18 septembre pour, toujours à la Galerie Armure, pour voir les œuvres du jeune artiste Mohawk de Kanawagé, Kyle Williams. Il s'agit de sa première exposition en solo qui s'intitule, je vais essayer de le prononcer comme il faut, Kashat Tinsera, ce qui veut dire « grande force et puissance » en langue Mohawk. Et avec la paix et le bon esprit, c'est un des trois principes importants de la Constitution de la Confédération Haudenosaunee.
Voilà.
Williams est un artiste pluridisciplinaire, mais les œuvres qui sont présentées à Armure sont surtout du dessin puis de la peinture. Puis pour vous donner une idée, je me permets de vous lire ce court extrait du texte du commissaire MC Snow qui accompagne l'exposition. Kyle peint des structures en béton géantes qui occupent l'environnement. Tours, viaducs, ponts, autant d'icônes qui obscurcissent et projettent leur ombre sur une grande partie du territoire Mohawk. Mais au lieu de la grise morosité à laquelle on pourrait s'attendre, l'interprétation que fait l'artiste de ces structures gigantesques et menaçantes révèle une beauté robuste. Comme si le ciment et les échafaudages métalliques avaient une âme, Williams a trouvé un moyen de l'exprimer. Les fiers ouvriers du fer, les constructeurs de ponts et les familles de ces travailleurs acharnés des Kenkeneaka attendent avec impatience que Williams immortalise notre ville sur toile et moi aussi. Donc voilà, jusqu'au 18 septembre, à la galerie Armure, près du métro Rosemont.
Donc, Marie-Ève, plein de suggestions, de plein de choses en fin de semaine. Il y a même aussi Exposine en fin de semaine aussi à Montréal.
Oui, qui a lieu, je me souviens plus, c'est l'espace des...
Non, mais tu t'en souviens plus.
C'est ça.
Donc, Exposine à Montréal en fin de semaine.
En fin de semaine, le dimanche,
oui. Oui, c'est-à-dire le dimanche 12 septembre. Donc, merci Marie-Ève. Allez consulter les réseaux sociaux et les sites Internet et écouter la radio. Il y a plein de choses qui se passent. C'est quand même la rentrée. Elle n'est pas tout à fait comme on aurait voulu, mais quand même présente. Donc, on va y aller avec quelques notes de musique, Marie-Ève, et puis on revient pour la conclusion de l'émission.
Oui.
Donc, je vous parlerai dans deux semaines, du procès d'un Iranien en Suède, assez particulier comme histoire. Je vais terminer avec une brève qui est sortie au début du mois de septembre. Je vous lis la première phrase de l'article. Trois policiers et deux ambulanciers paramédicaux vont être poursuivis dans le Colorado pour la mort d'Elijah McLean, un jeune homme noir décédé en 2019, après avoir subi une prise d'étranglement durant son interpellation, puis s'être vu injecter de force un puissant calmant.
Voyons-nous.
Oui, madame. Chacun des cinq accusés devra répondre d'homicide involontaire et d'homicide par négligence. Ils sont en outre poursuivis pour avoir administré de la kétamine, un puissant sédatif utilisé notamment dans les anesthésies, à M. McLean sans son consentement. Il est décédé en route vers l'hôpital et voilà.
C'est brutal, c'est toujours bien pas un orignal ou un ours ou je sais pas quoi.
Il avait un arrêt cardiaque et est mort dans son transport vers l'hôpital. Il a été déclaré mort cérébralement plus tard. L'affaire liée à la mort de M. McLean avait initialement été classée sans suite, mais le gouverneur du Colorado avait demandé la reprise des investigations en juin 2020. Après s'être entretenu avec la famille et après qu'une pétition ait été lancée pour ouvrir l'enquête qui avait recueilli 3 millions de signatures. Vous savez, on n'a pas beaucoup entendu parler ici, c'était avant George Floyd, évidemment.
Ouais.
C'était à Aurora, au Colorado, en 2019, mais là-bas, ça avait eu grand impact dans différents États aux États-Unis. Donc, cinq accusés, comme ça, des ambulanciers, c'est rare quand même, accusés de donc d'homicide. Le procès va s'ouvrir dans les prochains mois. Donc, ben voilà, c'est la fin de l'émission. Une nouvelle négative et positive en même temps pour terminer. C'est souvent ça notre karma ici aux Apatrides.
Oui, on essaye entre les deux.
Merci d'avoir été à l'écoute. Pour nous suivre, c'est apatridesanonymes.info. Notre page FB aussi, il y a beaucoup d'informations. Notre courriel, apatridesanonymes@resist.ca. Et sinon, sur la page de Choc pour nous écouter en balado, évidemment. Notre émission de ce soir sera là d'ici demain sûrement. On se reparle le 23 septembre, dans deux semaines. Simon sera avec nous en studio. Et ben Marie-Ève, merci beaucoup pour tout ce travail à la mise en onde et au contenu.
Ben merci à toi à l'animation, mon cher.
Ben fait plaisir. Et puis on vous souhaite une bonne soirée sur les ondes de Choc. Il y aura plein de musique pour vous divertir et vous enjoliver la soirée. Et on va se laisser donc avec une dernière pièce, un de nos groupes chouchous ici à l'émission. Il s'appelle Ceux qui nous traversent. Leur nouvel album Le Sacre de Sainte-Barbe vient de sortir tout juste il y a quelques semaines. On va écouter la pièce Clou. C'est un groupe de Montréal, mais qui fait une espèce de fixation sur Sainte-Barbe, qui est un petit village en Montérégie, si je ne me trompe pas, ou en Estrie, où ils ont fait leur concert de lancement il y a quelques semaines. Ils sont sur Coup de Shabata Records, qu'on aime bien aussi, et ils vont jouer à Montréal le 2 octobre pour le lancement, mais la salle n'est pas confirmée encore, donc allez voir sur leur plateforme Ceux qui nous traversent. Donc, Marie-Ève, on se laisse avec Clou.
Ouais, qui était mon choix.
Ton choix, donc à dans deux semaines.
Pour le clou de la soirée.
Yeah, bonne soirée.